Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Cube Radio. Le Guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Le Guide de l'auto, spéciale revue d'année.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 25 décembre.
Bonjour Antoine.
Hein?
C'est le 25 décembre.
Édition du 25 décembre. Pas besoin de vous dire qu'on n'enregistre pas le 25 décembre.
Non, effectivement, je me suis déguisé en Père Noël pour absolument rien parce que on est à la radio.
Oui, tout à fait. Mais tu l'as fait pour moi.
Juste pour toi.
Hein? C'est quand même un geste que j'apprécie.
Ça me fait plaisir.
Je voulais juste te le dire.
Oui.
Maintenant, on va se faire une petite émission un peu spéciale aujourd'hui, puisque on est à l'heure des bilans. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé de 2021, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on attend, comment on a vu l'industrie. Alors, on va faire 4 blocs spécifiques, en commençant par les belles surprises de 2021.
Soyons positifs, les miennes. Hein?
Oui, il y aura du négatif aussi, faites-en pas. C'est parce que c'est plus vendeur du négatif aussi.
Oui, effectivement.
Puis, contrairement à certains de nos collègues qui sont toujours dans le positivisme, il faut quand même... taper sur le clou un peu.
Un petit couteau qui va le bas entre une bouchée d'atoka et de dinde.
On nomme pas personne.
Ben non.
On nomme pas personne. Alors, écoute, moi, je commence avec un premier coup de cœur de l'année 2021. Et c'est... Genesis pour l'ensemble de l'œuvre. Genesis parce que je suis le premier à être surpris du succès de cette marque-là. Moi, quand on est arrivé avec la marque Genesis, avec le nom d'une ancienne auto qui s'était pas tant vendue.
Le nom de deux anciennes autos, parce que c'était la berline, c'était le coupé, c'était pas clair.
Et
le modèle d'affaires initial était pas clair non plus avec des ventes à domicile. Est-ce que on allait être associé au concessionnaire Nissan?
Oui, puis attends, puis on arrivait avec une première voiture brandée Genesis qui était une grosse berline intermédiaire alors que tout le monde quittait le marché.
Effectivement.
C'est quoi cette idée-là?
Et comment essayer de vendre une berline de grand luxe comme ça avec un écusson inconnu de tous? Donc, c'était audacieux.
Oui, et un écusson au design un peu kitsch, permets-moi de te le dire.
On dirait un mauvais écusson de Bentley, oui.
C'est bon. Fait que moi, j'ai trouvé ça un peu particulier, mais... Évidemment, c'est la G70 qui a parti le bal, qui est une voiture assez convaincante, mais cette année, on a essayé la berline G80, le VUS GV80, puis le GV70. Et à ma grande surprise, on voit des G80 sur la route. Il y a des gens qui vont voir cette voiture-là, qui sont impressionnés avec raison et qui l'achètent.
Et alors en même temps, l'offre, il n'y en a plus d'offres. Donc, si on veut autre chose qu'une berline sportive et qu'on veut du luxe et du confort, mais la G80, c'est une très belle offre.
Il y a peut-être la Cadillac CT5 aussi qui est intéressante. T'as quelques joueurs qui sont... juste un peu plus traditionnel que les Allemands là-dedans, mais Genesis, je veux dire, c'est un constat d'échec pour les constructeurs japonais. Là. Oui. Acura, Infiniti, Lexus sont partis de ce marché-là.
Chez Lincoln, la même chose. On était le maître de la berline de luxe et puis finalement,
terminé.
On n'en a même plus de berline.
C'est vraiment fascinant. Puis là, évidemment, le GV70 est un produit qui nous a impressionnés au point qu'on l'a nommé VUS de l'année au Guide de l'auto.
Oui, tout le monde n'était pas forcément d'accord parce que c'était un choix assez audacieux, disons-le, là, de le placer devant des véhicules très convaincants comme le Audi Q5, le Acura RDX, mais...
Mais ça, c'est dans son segment.
Oui.
Mais on l'a nommé...
En plus.
Et tu sais, au jury du véhicule nord-américain de l'année, c'est un véhicule qui fait compétition à des modèles comme le Bronco.
Oui, oui.
C'est,
qui ont une aura un peu plus grande.
Ça n'a rien à voir comme type de véhicule, mais en même temps, ce sont deux, entre guillemets, VUS. Alors, tu sais, c'est bien drôle de voir l'arrivée de Genesis avec un produit qui fait tout très bien. Et en plus, on a l'audace d'annoncer une version électrique qui va arriver d'ici même pas un an. Alors, pour moi, c'est vraiment une marque qui a le vent dans les voiles, qui va probablement en faire mourir d'autres. Là, je pense à Infiniti, je pense à Jaguar qui
on en parlera un peu plus tard.
Qui ont de la misère à se tortir la tête hors de l'eau. Oui. Mais l'ensemble de l'œuvre chez Genesis m'a vraiment impressionné.
Et on a une grande machine coréenne derrière qui a vraiment une très grande volonté de réussir parce qu'on sait...
Parce qu'on pourrait aussi donner un pouce en l'air à Hyundai qui fait un très, très bon boulot en ce moment. Là.
Mais avec Hyundai, on avait une certaine base. Là, avec Genesis, on est parti de rien initialement. Ouais.
Puis c'est surtout qu'on est mal parti.
Ouais.
On est parti avec un nom qui est devenu une marque, avec des produits qui étaient initialement pas ceux qu'on pensait qu'ils allaient se vendre. Bon, bref. Fait que c'est parti.
Mais là, on a l'air bien lancé.
Oui, exactement.
Tu as effleuré le sujet de la CT5 lorsqu'on parlait des berlines.
Ouais.
De mon côté, dans les belles surprises de l'année, c'est le duo Cadillac CT4V Blackwing et CT5V Blackwing que j'ai pu conduire sur la piste le Canadian Tire Motorsport Park en Ontario. Et franchement, oui, j'avais des attentes très élevées par rapport à ces voitures-là. GM nous avait fait languir longtemps.
Ouais.
Et quand on avait su qu'on allait avoir la manuelle, franchement, c'était... Il y avait de quoi plaire aux amateurs, aux puristes. Et j'ai pas été déçu un seul instant. Oui, la CT4V Blackwing, c'est intéressant, mais pour moi, le véhicule ultime, ça demeure la CT5. Donc, on a le V8 suralimenté.
Propulsé.
De 6,2 litres, suralimenté, propulsé, avec une boîte manuelle dans une berline à 4 portes. Pour moi, c'est impressionnant que cette voiture-là puisse même exister en 2021-2022. L'industrie est rendue ailleurs, mais avec sa gamme qui est très élargie.
C'est la dernière.
C'est la dernière. Il n'y en aura pas d'autres. Déjà avec la CTS-V par le passé, on avait fait des choses assez exceptionnelles. Là. Une CTS-V familiale à boîte manuelle. Là. Ça aussi, on s'entend que c'était dans les dernières de son espèce.
Ouais.
Mais comme on a un catalogue très, très étendu chez GM, ben on peut se permettre des
beaucoup
folies,
moins qu'à une certaine époque. Là.
Oui, bien entendu, mais tu sais, on va d'une Chevrolet Spark à 11 000 $ jusqu'à un Cadillac Escalade diesel à 125 000 $. Tu sais, on a un catalogue très étendu. Alors, on peut se permettre ces folies-là. Moi, j'ai été absolument charmé par la CT5 V Blackwing. Bon, oui, c'est une voiture qui est dispendieuse, mais bon, on en avait parlé aussi. C'est le même prix qu'une Challenger, qu'une Charger Hellcat, par exemple. Mais tu sais, on a une voiture tellement plus complète, avec une puissance, tu sais, que tu peux même pas totalement exploiter non plus. Mais c'est... En étirant, je pouvais même la comparer à la Corvette parce que ça reste une mécanique qui est plus puissante que la Corvette Stingray, mais dans un format beaucoup plus pratique. Et à choisir entre les deux pour un usage, disons, plutôt régulier, j'aurais pas le choix de te dire que la Cadillac l'emporte dans ma tête et dans mon cœur. Alors, vraiment, chapeau à GM de ce côté-là.
Un autre coup de cœur que j'ai eu cette année, c'est le duo GTI Golf-R 2022. Encore une fois, voiture de l'année au guide de l'auto. Je pense qu'elle est en très, très bonne position, cette voiture-là aussi, pour remporter voiture de l'année par le jury nord-américain. Alors,
même si c'est une petite voiture allemande, ça risque de plaire à tes collègues américains?
Ben, en fait, les trois finalistes sont la Civic. La Golf GTI et la Lucid Air qui est...
Et j'imagine relativement mal la Lucid Air devenir la voiture de l'année, là.
Ben, ça, c'est pas impossible.
Ce serait un peu hâtif comme nomination, là.
C'est ça. Ce
serait un peu hâtif.
Je serais pas nécessairement d'accord avec ça parce que c'est une voiture hors de prix pour 99% des gens, tu sais. Fait que c'est
mais 1% des Américains, ça reste beaucoup de monde, alors.
Oui, oui. Mais la GTI, la Golf R, c'est une voiture aboutie, c'est une voiture qui est fidèle à la tradition du pur plaisir de conduire, qui est capable d'offrir une Volkswagen, pas nos Volkswagen américains, mais les vrais Volks. Puis je me suis amusé d'ailleurs cette semaine à aller regarder la disponibilité des modèles Volkswagen du côté de l'Europe. Écoute, ils ont un catalogue.
Ah, c'est exceptionnel. C'est incroyable, là, des mécaniques hybrides en plus qui se mêlent autour.
Je te parle même pas des mécaniques. Ils ont au moins 25 modèles de disponibles. Mm-hmm. La Golf, s'importe, la familiale, la nouvelle Polo, les Volkswagen Up. Après ça, ben, les Passat berline familiale.
Et même avec les VUS, là, le petit T-Roc qui est plutôt cute, je trouve. Oh, ouais, malheureusement, nous, on a autre chose, là, mais on a un catalogue peut-être un peu plus diversifié. Oui.
Ah, c'est exceptionnel ce qu'ils ont là-bas, mais la Golf GTI et la R qui sont vendues, je ne veux pas dire à prix raisonnable, mais à prix très réaliste pour ce qu'elles proposent, parce qu'une GTI, ça part à 32 000 $.
Ouais.
Moi, je trouve ça super intéressant comme bagnole, franchement, chapeau. Puis un pouce en l'air aussi pour le Ford Maverick, mais pour la version hybride, parce que...
Mais pour l'audace, premièrement, je trouve. Là.
Juste parce que c'est une bonne idée.
Oui.
Juste parce que c'est une excellente idée. Je suis persuadé que ça va connaître.
C'est une bien meilleure idée que l'EcoSport, parce que... non, mais on voulait un produit d'entrée de gamme. On voulait quelque chose d'attrayant, de cool, de jeune, de frais. Puis là, on avait l'EcoSport, puis c'était tout sauf ça. Et là, on arrive... Tiens, on a toujours été... le roi de la camionnette avec le F-150. On a connu du succès par le passé avec le Ranger. C'est pas génial en ce moment. Et là, on arrive avec une camionnette que personne d'autre a.
Et qui est accessible.
Oui.
Bon.
Oui.
Puis moi, j'aime surtout la version hybride parce que tu roules à 6 litres et demi au 100 avec une camionnette qui a 2000 livres de capacité de remorquage, qui est polyvalente, qui est pratique. Dommage qu'on n'ait pas de rouage intégral. Tu peux l'avoir avec le moteur 2 litres si tu veux, mais là, après ça, ta consommation est plus autour de 10 litres.
Puis le prix à l'achat aussi est un peu plus élevé.
2500 $ de plus que l'hybride. Alors, tu sais, si tu peux rester... Puis tu peux avoir une version hybride avec un équipement minimal, très honnête. Puis, tu sais, tu peux rester en bas des 30 000 $
Oui.
Alors, c'est...
Et il n'y a pas beaucoup de véhicules tout court à moins de 30 000 $ là, en 2021.
Ben, une Civic de deuxième de la gamme, c'est plus de 30 000.
Voilà.
Alors, tu sais, avec le transport préparation, alors ça te donne une idée. Donc, on a vraiment quelque chose entre les mains qui est très intéressant, selon moi.
Un deuxième véhicule GM parmi mes coups de cœur de l'année, et ce sont les VUS pleine grandeur avec les mécaniques Duramax. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai pu conduire le Suburban avec le 3 litres, le 6 cylindres 3 litres en ligne turbo diesel, puis j'ai pu le remettre à l'essai avec le Cadillac Escalade. Et je sais que c'est toujours un peu délicat de parler de coups de cœur comme ça quand c'est des véhicules aussi dispendieux, évidemment, mais surtout quand c'est des véhicules qu'on ne peut tout simplement pas s'acheter parce qu'ils ne sont pas disponibles. C'était un enjeu pour bien des véhicules cette année et les gros véhicules GM, j'inclus les VUS pleine grandeur, Suburban, Tahoe, Escalade et compagnie, mais les camionnettes aussi. Alors, c'était un enjeu pour 2021. À mon avis, ça le demeurera pour 2022. Et c'est mon seul bémol avec ce véhicule-là, parce que autant en théorie qu'en pratique, ça reste génial. Là. Le rendement de cette mécanique-là dans des véhicules aussi gros, franchement, j'apprécie énormément.
Puis malheureusement, moi, j'ai bien l'impression qu'on va les voir disparaître assez rapidement. Ford a abandonné son diesel. J'ai le feeling que du côté de chez Jeep, on ne sera pas capable de conserver l'éco-diesel très longtemps. On est rendu à la limite de ce qu'un moteur diesel peut offrir pour passer les normes d'antipollution. C'est vrai.
Parce qu'on est à quoi? 10 litres au 100 là, avec un Suburban diesel? Là,
ah, mais c'est pas tant la consommation des émissions polluantes.
Mais tu sais, ça frappe l'imaginaire qu'un si gros véhicule consomme aussi peu, là. Mais oui, effectivement, pour respecter les normes, il y a des limites à ce que les ingénieurs peuvent arriver à faire.
Ouais, voilà.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto. Un retour sur la dernière année.
C'est assez le positif, Antoine.
Oui, c'est ça, je me disais.
Oui, un peu de négativisme.
Ben, écoute, moi, je pense que le premier point que je veux souligner, c'est les bien-pensants du Québec qui crachent sur l'automobile. L'automobile est rendu tabou. L'automobile s'est rendu une cigarette. L'automobile, c'est un cancer. Tout ce qui a un moteur à essence, faut l'éliminer. Je me souviens encore de cet article de Jean-François Lisée que j'ai lu il y a quelques semaines qui était épouvantablement...
C'était mal bâti, mal construit comme argumentation. On tapait sur le mauvais clou, mais bon, c'est...
On parlait à travers son chapeau. Ouais. On n'était pas en connaissance de cause. C'était un dossier qu'on ne contrôlait pas adéquatement. Bref, c'est un très mauvais article, mais qui illustre l'opinion de bien des gens au Québec face à l'automobile, alors qu'il fut une époque où l'automobile était partie prenante du marché. Tu sais... Toute cette opinion-là, tout le négativisme qui entoure l'automobile polluante, sale, qu'il faut éliminer, ça explique la disparition des circuits sur nos routes.
Bien entendu.
Des circuits automobiles, de tout ce qui s'appelle le sport motorisé, le désintérêt pour ça, alors que dans le reste d'Amérique du Nord, c'est pas ça qui se passe. Fait que je trouve ça, oui, c'est correct qu'on prenne un virage vert, oui, c'est correct qu'on soit même pionnier à ce niveau-là.
Mais faisons-le... proprement,
mais
vraiment.
Faisons les choses adéquatement. Tu sais, la SAC qui devrait être la première impliquée là-dedans, ben comme d'habitude, on se pogne le cul, on fait rien.
On est à la traîne, vraiment.
On est des vrais fonctionnaires qui bougent pas, qui prennent pas action. Tu sais, ça veut dire, tout ce qu'on veut faire, c'est mettre des plaques vertes sur la route, nonobstant ce que ça veut dire. On continue d'avoir une taxe à cylindrée qui a absolument pas de bon sens, qui est complètement désuète. Fait que ça donne ce que ça donne, puis malheureusement, le désintérêt pour l'automobile et le côté victime de ce que ça peut impliquer, parce que on tape trop souvent sur l'automobile, mais pas assez sur, par exemple, les camions lourds.
Non.
Par exemple, tout ce qui s'appelle transport, là, on tape pas là-dessus. Il n'y a pas de réglementation non plus sur tout ce qui s'appelle véhicules de loisirs, motoneige, motomarine, VTT,
et on sait que ce sont des véhicules extrêmement polluants.
Les scooters,
là.
N'importe quoi. Alors, tout ça, c'est jamais... Tu vas me dire, oui, il y a plus de voitures sur les routes que de scooters. Je suis bien d'accord. Mais comment se fait-il qu'il y a juste l'automobile qu'on cible? Comment se fait-il que c'est juste là-dessus qu'il faut taper? L'automobile doit devenir électrique, mais c'est drôle, hein? Une motomarine qui garoche 30 litres d'essence à l'heure dans la rivière directement. Il n'y en a pas de problème. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça que je trouve un peu achalant ici au Québec. L'automobile est une victime et prise pour cible, et des fois, on ne fait pas ça de la bonne façon. Et particulièrement en 2021, on l'a vu plus que jamais.
Et je ne veux pas te décevoir, mais je n'ai pas l'impression que
ça va s'améliorer.
Non. Je n'ai pas de boule de cristal entre les mains, mais j'ai bien l'impression que ça ne s'améliorera pas en 2022. Bon, t'as effleuré le sujet du virage vert. Ben moi, parmi mes déceptions de l'année 2021, c'est l'absence de véhicules électriques chez bien des constructeurs, et je te les lance en rafale pour te montrer à quel point, oui, on parle de Tesla, on a parlé beaucoup du Mustang Mach-E, on a parlé, tu sais, des grandes nouveautés électriques tout au cours de l'année, mais il y a encore plusieurs joueurs qui sont très, très, très silencieux, et j'y vais en rafale. Donc, chez Acura, on n'a rien. Même chose chez Alfa Romeo, Buick, Chrysler, Dodge, Fiat. Oui, parce que Fiat existe toujours. Chez Honda aussi, Infiniti, Jeep, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mitsubishi, Ram.
T'as certaines de ces marques-là qui ont des hybrides rechargeables.
Oui, pas toujours des véhicules nécessairement convaincants ou encore disponibles. Mais toujours est-il qu'on a, pour chacun, on n'a rien de 100% électrique.
C'est comment est-ce qu'une marque comme Alfa Romeo va survivre sans électrification? Acura.
Ben même avec de l'électrification, je veux dire, le problème est un petit peu plus un petit peu plus profond que
c'est ça
là. Mais de voir que Honda, on a été dans les pionniers avec l'hybride en même temps que Toyota. On avait l'Insight et la Prius au tournant du millénaire. Toyota a vraiment pris son envol dans le segment hybride, dans le domaine de l'hybride, mais chez Honda, on n'a jamais été capable d'être pertinent et d'être convaincant. Bon, là, pour 2022, Toyota va avoir un véhicule électrique chez Honda. On attend toujours, là. On voit des concepts, on voit des niaiseries apparaître une après l'autre, mais tu sais...
On va avoir comment s'appelle le concept, le prologue.
Ben oui, c'est ça, tu sais. J'ai l'impression qu'on va faire une autre émission à pareille date l'année prochaine, puis il sera toujours pas arrivé.
Honda est un constructeur automobile qui, selon moi, est carrément en train de l'échapper.
Oui.
Complètement.
Oui. On était un meneur là chez Honda là. On était une
à peu près.
On était une référence à bien des chapitres là.
Tu sais, on a renouvelé la Civic cette année. C'est une bonne voiture. Oui. C'est une voiture qui va bien. On a corrigé beaucoup de problèmes de l'ancienne génération, même si on n'a pas de nouvelles mécaniques. Mais je pense que c'est une voiture qui se comporte drôlement mieux.
Meilleure voiture. Elle est bien plus belle, mais elle est beaucoup plus chère qu'avant aussi.
Elle est beaucoup plus chère. Mais le problème, c'est qu'on arrive trop tard.
Oui.
On arrive trop tard. Ce marché-là n'est plus... Elle ne change pas assez non plus la Civic pour que les gens fassent « Oh, wow, la nouvelle... » Tu sais, c'est complètement différent. Oui, on ne l'a pas réinventé complètement.
Puis la Civic hybride, elle est où? La Civic hybride rechargeable, elle est où?
Ouais. Tu sais, puis cette année, on a éliminé l'Insight, on a éliminé la Clarity. Bon, le CR-V hybride qui est toujours pas venu chez nous.
Non.
Le Pilote, le Passport, le Ridgeline... commence à vieillir, là.
Oui.
Le CR-V, on l'attend, le nouveau, là. Le HR-V, c'est du bois mort.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe?
Il était supposé changer, puis finalement, il ne changera pas, le HR-V, pour la nouvelle année. Bref, on attend. C'est long, c'est interminable.
Fait que, tu sais, Honda qui a été le premier constructeur à offrir une hybride sur notre marché avant la Toyota Prius,
ouais,
avec l'Insight, bien, aujourd'hui, on a un Accord hybride
que personne sait qu'elle existe,
puis qu'on n'achète pas.
Que personne n'achète à part quelques taxis.
Il n'y a rien. Et pire encore, Acura.
Oui.
Et Acura, je veux dire, on a deux produits. C'est pas dur, là.
Oui.
Le RDX.
Puis le MDX.
Puis le MDX. La nouvelle TLX, c'est une voiture qui est très intéressante, mais que personne n'achète.
Oui.
On l'a échappé en éliminant le moteur V6. On est arrivé avec un 4 cylindres, puis on s'est dit, la clientèle va aimer ça. Pas en tout. La clientèle passe.
Ça, je suis surpris quand même.
Bien.
Autant, dans une berline de ce format-là, je trouve qu'un V6, c'est intéressant, c'est pertinent. Autant, bon, un bon 2 litres turbo, ça peut finir par faire l'affaire. Et je comprends que c'est une clientèle, je dirais pas de niche, mais on est quasiment rendu là. Chez Acura, on voudrait que ce soit pas une clientèle de niche,
mais c'est ça.
Et ben, si on regarde chez des concurrents, on en a des 6 cylindres.
Ben en fait, la concurrence a des 6 cylindres, mais dans des versions de performance. Il n'y a plus de moteur.
Non, mais c'est parce que la concurrence... Cadillac avec la 7S5, par exemple. On en a un 6 cylindres.
Ouais, mais on se situe où avec la TLX? Je pense que c'est même pas clair non plus. Tu sais, elle est un peu entre deux chaises, cette voiture-là. C'est un peu plus gros qu'une A4, bien qu'on la considère comme une rivale de l'A4. Là, on arrive avec une version V6, la Type S, qui est magnifique, mais qu'on a vendue à quoi? 80 unités, 100 unités, tu sais,
ben on va avoir un
pas.
Plus grand volume quand même pour 2022. Puis on a fait aucun coup d'éclat avec cette voiture-là.
Puis au-delà de ça, le constructeur, tu sais, ça me donne l'impression d'un constructeur qui pourrait vendre des matelas ou des tanks à eau chaude puis qui serait aussi excité. Tu comprends-tu?
On a essayé de nous faire vivre un peu de passion là, en mettant la NSX dans la publicité du MDX, mais bon, c'est pas...
Attends, tu m'amènes à mon prochain sujet.
Ça, c'est la risée complètement de l'industrie là, en ce moment.
Tu m'amènes...
La nouvelle Integra.
Ça n'a pas de bon sens. Écoute, on nous a teasé depuis le mois de juin avec le retour de l'Integra, parce qu'on étire l'ILX depuis beaucoup trop longtemps. Puis c'est drôle parce que aujourd'hui en 2021, j'ai envie de te dire...
Que c'est un excellent achat!
Tu sais qu'avec 32 000 $ pour aller t'acheter une ILX, c'est une voiture qui, oui, n'est pas à jour sur le plan de la présentation intérieure puis du design, tout ce que tu voudras.
Mais t'as une très belle valeur entre les mains, un format qui est, tu sais... relativement intéressant.
T'aimes-tu mieux conduire?
Une très belle mécanique, en plus.
T'aimes-tu mieux conduire une ILX ou une Corolla SE, 169 chevaux, ouais. Ou une Civic Sport. Je veux dire, attends,
ouais, la question se pose vraiment.
T'as une
là.
Belle petite mécanique 2.4, transmission dual clutch, 8 rapports, c'est très performant, c'est dynamique, mais c'est sûr que t'as un écran dans lequel t'as le goût de fesser dans le tableau de bord parce que c'est complètement dépassé.
Ouais.
Mais cela étant dit, c'est une super bonne petite voiture. Mais
c'est une belle valeur, c'est un bel achat.
Mais c'est une oubliée. C'est carrément oui. Une oubliée du marché.
Mais une oubliée pour le constructeur parce qu'on ne l'a pas fait évoluer non plus.
Non, c'est ça. Fait que, tu sais, cette voiture-là avait besoin d'une remplaçante. En fait, est-ce qu'elle avait besoin d'une remplaçante? Ça, c'est l'autre question.
Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux d'arriver avec un petit RDX au lieu de mettre clair, son énergie là-dessus?
Le CDX là, qu'on attend depuis 5-6 ans, là, qui viendrait rivaliser avec, par exemple, un Q3 chez Audi là, ou un X1 de BMW, il est où, lui?
Non. Il n'est pas là.
Hein?
Il est pas là.
Ça.
Donc, on arrive avec une Civic SI et...
Mais c'est épouvantable. Parce que là, on arrive avec une voiture... En fait, on nous a aguiché avec le retour de l'Integra en remplacement de l'ILX. On nous a dit qu'il y aurait une boîte manuelle. Ça va être extraordinaire. Là, après ça, on a appris que ça serait une 5 portes.
Ah.
Parce qu'il y avait beaucoup de designs qu'on voyait sur Internet. Ça serait un coupé sport. Nanana. Finalement, on nous a dit que ça serait une 5 portes. Et là, on débarque avec ce gros serin jaune-là, épouvantable, directement sorti du marché Opus Saint-Eustache, avec des gros autocollants Keten. Puis
comme si on était en 2002,
ça,
là.
Ouais, exactement. Tu sais, ça me rappelait une Sentra SER Spec V, là.
C'était top.
C'est ça,
oui,
là.
Parce que t'es vendu jaune en plus, t'sais, là. Oui, oui.
On débarque avec ça, puis on nous dit que ça va avoir 205 chevaux.
Donc, autant que la Civic SI d'ancienne génération.
C'est la même affaire.
Oui.
On a pris la Civic, le moteur d'ancienne génération, on l'a baissé de 5 chevaux pour que l'Integra ait 5 chevaux de plus. On a joué avec les chiffres.
On parle de déception à la Civic SI. Ça aussi, c'est une déception là, de voir qu'on est en recul par rapport aux autres.
Ben,
aux
côté
autres
puissance, c'est vrai. Côté
oui,
puissance,
bon.
C'est vrai. Mais on va voir ce que cette Civic SI-là va... Tu sais, la Civic SI, là où on l'échappe, c'est qu'on n'a même pas de transmission double embrayage. Juste une manuel. Je veux dire, moi, j'aime ça, des manuels, c'est correct.
Oui, mais c'est rendu...
T'es un constructeur automobile qui veut vendre des voitures, là, sois sérieux, là.
Ouais.
Amène-moi une transmission dual clutch. T'en as une super bonne en plus dans une ILX à date-là.
Non, malheureusement, ce sera pas possible.
Bref. Alors là, on arrive avec cette Integra-là.
Oui.
Qui, elle, va avoir une transmission automatique en option. Quelle sera-t-elle?
Ils vont quand même pas mettre la CVT là, là. Ben, tu sais... Je dis ça, mais c'est possible, hein? Tout est possible. Tout est possible.
Mais LED.
Oui.
Vraiment, tu sais, beaucoup plus LED qu'une Civic SI, là.
Oui.
Tu sais, fait que l'option d'avoir une 5 portes, si tu veux plus qu'une Civic 5 portes sport à 180 chevaux, mais tu veux pas aller dans une Civic de ses pairs, ça va être d'aller chez Acura et d'acheter ce gros serin-là. Bon, qui va probablement être moins pire en gris, là.
Oui.
On s'entend, mais on l'a scrappé le nom Integra comme ça, là, brûler l'imaginaire des gens.
Parce que les attentes étaient très élevées, là, sur tous les forums, sur tous les groupes Facebook. Les rumeurs étaient. Les rumeurs se partageaient. On a fait revivre là, de belles émotions à toute la génération X, qui a bien connu les anciennes Integra. Et tout le monde a été déçu en la voyant, là. Moi, il y a personne, je connais personne qui a dit, ah, waouh, la nouvelle Integra. Alors,
même quand les concessionnaires.
Quand elle va sortir, je vais m'en acheter une, là. Il y a personne qui a dit ça, là.
Puis, je suis persuadé que c'est une voiture qui va être la fun à conduire. Ça je suis pas inquiet.
Comme une Civic SI.
Tu sais,
ça va être la même affaire.
Mais, je veux dire. C'est encore pire de ramener ce nom-là que quand on a ramené le nom Dart en 2013 sur une Dodge qui était une pseudo Alfa Romeo ratée.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, on l'a complètement échappé. Puis Honda, côté stratégie de marketing, côté innovation, on l'a pu, mais on l'a pu pantoute. Et moi, je me suis dit, écoute, là, c'était une mauvaise période à passer, ils vont finir par se rattraper. Ben non.
Voilà, on est encore là.
Fait que là, il est où le nouveau CRV? Il est où le nouveau HRV? Amenez-nous, tu sais, prouvez-nous que vous avez quelque chose à nous offrir, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Le pilote, là, bon an, mal an, il y a 7 ans.
Oui.
C'est loin d'être un mauvais produit.
Mais... toute la compétition est plus jeune.
Tu sais, je veux dire, tu t'assois là-dedans, puis tu regardes la planche de bord, puis c'est pas un tourne-disque, là, mais c'est presque... tu sais, attends.
On est dû pour un peu de changement.
Fait que Honda et Acura avec son Integra, c'est un de mes coups de masse de l'année, moi, vraiment.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio. Le guide de l'auto, spéciale revue d'année. Les faits marquants de 2021.
Antoine, c'est l'heure des adieux, ou peut-être des adieux primitifs à certaines marques et des bonjours aux marques qui débarqueront pour 2022. On parlait un petit peu plus tôt de Genesis qui est débarqué au cours des dernières années. Il y a Tesla qui est débarqué, il y a Polestar qui est débarqué, mais tu sais, ça reste une marque par année, peut-être une marque aux deux ans. Mais là, en 2022, on va avoir un grand bouleversement.
Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux constructeurs qui débarquent, et je vous les nomme en rafale. Imperium Motors, Lucid, Rivian, VinFast et Fisker. 5 nouveaux constructeurs automobiles, dont 3 qui sont, en fait 2 qui sont américains. Un qui est un importateur de produits chinois, Imperium Motors. En fait, Lucid qui est américain aussi, qui se prétend la rivale directe de la Tesla Model S, et VinFast, qui est un constructeur vietnamien. Alors, ça, c'est 5 nouveaux...
On n'a jamais vu de constructeur vietnamien sur notre marché. Là.
Jamais.
C'est une première.
Jamais. Alors, c'est 5 nouveaux constructeurs automobiles, pas des nouvelles marques issues de constructeurs déjà en place, mais des nouveaux constructeurs qui débarquent chez nous. On n'a à peu près jamais vu ça dans les 30-40 dernières années. Là. C'est
un défi énorme pour ces marques-là parce que, bon, il va falloir développer tout son réseau de distribution, réseau de concessionnaires, ses points de vente, ses points de service, de se bâtir un bassin d'employés, de main-d'œuvre. Donc, tout est à bâtir.
Tout est à bâtir.
Mais on va le faire différemment des marques plus traditionnelles. On n'aura pas un concessionnaire VinFast dans chaque village comme on a un concessionnaire Ford dans chaque village, là.
C'est évident. Puis de toute façon, ce modèle d'affaires-là est complètement dépassé. Je pense que les gens sont d'ailleurs tannés de devoir composer avec... se faire niaiser dans des concessionnaires avec des frais d'administration inventés d'un côté puis de l'autre. C'est des trucs qu'on peut carrément plus accepter là, aujourd'hui. Là. C'est un modèle d'affaires qui n'a plus lieu d'être. Puis de toute façon, on est dans une époque où tu commandes ta voiture, tu ne te présentes pas chez le concessionnaire, il y en a 500 dans la courbe, tu choisis la tienne, pas comme ça que ça marche.
Mais il y a encore un besoin de voir le véhicule avant de l'acheter, de prendre place à bord et de le conduire. C'est ça.
Ça, on va être en mesure de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me prouve encore une fois que l'année 2021 aurait été un cap tournant et que avec l'arrivée de ces nouvelles marques-là en 2022, ben ceux qui sont en place depuis très longtemps devront sérieusement repenser leur modèle d'affaires. Et moi, je pense qu'il y a des marques qui passeront pas à travers. Je suis persuadé du succès, notamment de Fisker chez nous. Rivian va connaître un bon succès aussi. Tu sais, Lucid, écoute,
Il est encore très tôt pour se prononcer de ce côté-là. Chez Imperium Motors, on a l'air relativement bien parti.
Mais est-ce que les produits vont être à la hauteur?
On avait reçu le président et le gestionnaire pour le Canada plutôt cette année à l'émission. C'est un format intéressant, je pense, pour la clientèle nord-américaine avec le VUS. Mais il y a plusieurs concessionnaires, points de service qui ont été annoncés pour le Québec, mais de vendre un produit chinois, j'ai l'impression que ça aussi, ça va être difficile. On sait qu'il y a d'autres véhicules qui sont bâtis en Chine, et c'est le cas de Polestar notamment, mais on n'a pas cette étiquette-là, justement, d'un produit chinois.
Non.
Exactement. Mais dans le cas d'Imperium, on l'associe très, très fort à la Chine. Ouais. Et malheureusement, dans la tête et dans la mentalité des consommateurs, on associe encore la Chine à du beau, bon, pas cher, bon marché. Là.
Ben, en fait, on associe aussi la Chine, du moins, de ce qu'on peut retirer des études de perception à la COVID-19.
Oui,
et
aussi.
Ça freine du monde.
Effectivement.
C'est, la Chine n'a pas très...
Et à des pratiques d'entreprise douteuses à l'échelle internationale.
C'est ça.
Donc,
exactement.
Donc, les gens ont peut-être un petit goût amer de ce côté-là, mais qu'on n'a pas avec Polestar. Pourtant, l'idée est la même. Là.
Oui, mais tu sais, moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment eux vont se... toutes ces nouvelles marques-là vont s'établir chez nous et comment ceux qui sont déjà en place actuellement vont réagir à tout ça.
Ouais.
Parce que, je m'excuse, là, mais tu t'appelles Chrysler, il faut que tu t'adaptes. Tu t'appelles, tu sais, il y a des marques, là, Infiniti, là, on n'arrête pas d'en parler. Là.
Ouais.
Bon, quand... là, on a lancé tout récemment le nouveau QX60. Ça va assurément devenir le modèle le plus populaire ou redevenir le modèle le plus populaire de la marque. Mais tu peux pas te baser juste là-dessus.
Tu peux pas avoir une marque avec juste un
modèle.
Qu'est-ce
qui arrive avec la Q50, la Q60? Est-ce qu'on va seulement les renouveler?
Mais le QX50, le QX55, personne n'achète ça.
Personne. Non, non, c'est du bois mort. Malheureusement, même si c'est une nouvelle technologie qu'on a là-dedans, ça se vend pas. On nous croyait pas au début quand on a tapé sa CVT, mais moi, je suis persuadé que c'est le deal breaker de ce produit-là. Il y a bien des gens qui touchent pas à ça pour cette raison-là spécifique.
J'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui ne le considèrent même pas et que dans leur liste de 3 véhicules à magasiner, ben le QX50 n'est pas là. Ils n'iront même pas le voir, ils n'iront même pas l'essayer.
Non,
là.
C'est ça. Puis je veux dire, on n'a rien d'électrifié, on n'a rien, tu sais, on est en retard, là. Vraiment.
Vraiment. Et si je devais...
T'sais, Nissan, on a commencé à se rattraper, là.
Oui. Mais oui, on a des produits de nouvelle génération. Bon, c'est le cas aussi avec Infiniti, mais c'est rien de convaincant.
Ça passe pas.
C'est rien de convaincant. On a essayé d'alléger les souffrances des concessionnaires cette année en leur permettant de se jumeler à un concessionnaire Nissan pour c'est pas des mesures qui ont été mises en place qui me donnent l'impression qu'un bel avenir est réservé à ce constructeur-là. Là.
T'as mis un bouchon de liège dans le trou de la chaloupe, là. Mais,
oui, mais l'eau rentre pareil. Là. On est en train de couler quand même. Là. Mais pour l'image générale de la marque, de dire... Hey, regarde, tu peux aller t'installer à côté de ton concessionnaire Nissan.
Bon.
C'est très évocateur.
Une autre marque qui vit sur du temps emprunté, c'est Chrysler. On sait que la 300 va disparaître.
Ben, ça, on le sait, mais j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on va disparaître.
De façon non confirmée, après 2023, ça sera plus là.
Ouais.
T'sais, parce qu'avec la disparition des moteurs EMI, avec le bon, que va-t-il arriver? Pas des moteurs EMI, mais du moteur L4, c'est bon.
Puis il y a quelqu'un, dans toute l'équipe de Stellantis, il y a quelqu'un qui doit être un peu sensé à quelque part et qui a regardé la colonne dans le tableau Excel et qui s'est dit, mais comment ça se fait que cette voiture-là existe?
Ouais, mais ça existe pour le marché américain encore. Il y a peut-être, bon, mais la vraie grande question, c'est l'avenir de la fourgonnette Chrysler.
Oui.
Je veux dire, moi, j'ai pas l'impression que l'avenir de ce véhicule-là, à moyen long terme, est très prometteur. Et j'ai le très, très grand feeling qu'on pourrait carrément éliminer la fourgonnette chez Chrysler.
Pas tout de suite, là.
Quelques années encore, et que l'usine de Windsor, en Ontario, qui est une grosse usine reconnue pour Chrysler, pourrait devenir celle où on va fabriquer les premiers véhicules 100% électriques du constructeur.
Oui, mais là, on est rendu à plus loin que 2022. Là.
Oui, mais 2-3 ans, ça va arriver assez vite. On peut pas continuer. Tu sais, je veux dire, on perd des parts de marché. La fourgonnette se vend plus vraiment très bien. Au Canada... Je veux dire, la Pacifica connaît pas de succès, la Chrysler Grand Voyageur encore moins. Aux États-Unis, celle qu'on appelle la Chrysler Grand...
C'est la Grand Caravane.
C'est ça. Puis aux États-Unis, c'est la Grand Voyageur qu'on ne vend plus au public depuis cette année. On ne l'offre qu'au parc désormais. C'est terminé. Tu sais, je veux dire, la marque Chrysler veut plus rien dire. Il y a pas une marque sur laquelle on a moins travaillé dans l'industrie que celle-là.
Qu'on s'est pas mal acharné, là.
Tu sais, je veux dire, ça a aucun bon sens, là. Je veux dire, Lincoln, c'est pas une marque qui a une image avec un aura exceptionnel. Infiniti non plus, mais Chrysler, sérieusement. Moi, quand tu me nommes le logo Chrysler, je pense à une Chrysler Le Baron des années 80.
Ouais.
Je veux dire, comprends-tu? L'image de marque, on n'a jamais travaillé dessus, malheureusement.
Et on en paye le prix maintenant. Un autre qui a un avenir pas nécessairement très prometteur, c'est la marque Jaguar.
Ça, c'est une grande curiosité. C'est une grande
un très
question.
Grand mystère.
Parce qu'autant autant Land Rover va bien,
oui.
autant Jaguar, ça bat de l'aile.
Oui.
Puis on élimine les modèles les uns après les autres.
Et un peu plus tôt, on parlait bon, des marques qui n'ont pas de véhicules électriques. Moi, je suis très surpris que la technologie électrique du I-Pace n'ait pas été reprise chez Land Rover. Là.
Ben, en fait, c'est pas compliqué. Moi, j'ai le feeling que tout ce qu'on peut produire de véhicules électriques chez Jaguar, on envoie ça en Europe. Mm-hmm. Ils sont beaucoup plus payants à vendre.
Oui.
On se bat pas pour vendre ça ici.
Non, c'est certain.
On n'a même pas vendu 100 l'année passée. Puis, si tu vas cogner à la porte d'un concessionnaire Jaguar pour t'acheter un I-Pace demain matin, il n'y en a pas.
Non, non, je sais bien. Mais c'est tout ce qui a encore peut-être sa raison d'être chez Jaguar. Je sais que tu avais bien aimé le F-Pace, les deux F-Pace que tu as pu conduire cet automne, cet été. Mais encore, tu sais, si la marque Jaguar devait disparaître, je suis pas sûr que...
On a éliminé la XE, on a éliminé la XJ. Oui. Le F-Type, c'est une voiture qui...
Ben, c'est une voiture de niche.
Non, c'est une voiture de niche. Puis on a éliminé les modèles, je veux pas dire de masse, mais les modèles plus... Je veux dire, tout ce qu'on propose maintenant, c'est des V8. Tu peux pas continuer à...
Ça durera pas longtemps.
Non, c'est sûr que c'est...
Et on l'a pas... On a eu de la difficulté à la faire évoluer aussi.
Absolument.
Tu sais, c'était un grand coup d'éclat à son arrivée. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec cette voiture-là?
Qu'est-ce qui s'en vient chez Jaguar? Est-ce qu'on a le soupçon d'un nouveau modèle? Le E-Pace, c'est épouvantable comme échec, là.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est un produit qui aurait dû connaître...
jamais.
Et c'est un produit qui aurait dû connaître du succès. Rien. On n'en vend pas. Point final. Alors, c'est... Je ne sais pas quoi te dire, mais Jaguar, ça s'en va dans le mur en Amérique du Nord, pas à peu près. Là.
Et je serais vraiment pas surpris de voir cette marque-là disparaître.
C'est incroyable de penser à ça.
À court ou moyen terme. Là.
Bon, puis Fiat.
Mais Fiat, ça n'existe déjà plus là, dans notre tête politique. Oui, exactement. Dans notre imaginaire à nous, dans celui des concessionnaires, ça n'existe déjà plus. Il y a simplement chez Stellantis que ça existe toujours parce qu'on refuse de payer des pénalités aux concessionnaires. C'est et c'est la triste réalité.
Alpha Romeo?
Ça aussi, c'est un très, très grand mystère.
On est arrivé avec deux voitures en 2016.
On a raté le retour avec Fiat. Et là, ben, on est pas mal en train de rater le retour d'Alfa Romeo. Là. Quand la Giulia est arrivée, c'était intéressant. On avait une touche d'exotisme là-dedans. On avait des versions de performance avec la Quadrifoglio. On est arrivé avec un VUS... On ne peut pas dire que ça se vend très fort là, comme VUS.
Mais tu sais, moi je conduis une Alfa Romeo et j'aime ça.
C'est pas un méchant produit, là, le Stelvio, mais en même temps, tu sais, deux seuls produits pour une marque, deux produits qui n'évoluent pas non plus.
Zéro. Oui, on a mis Apple CarPlay. OK, parfait.
C'est correct. Vous avez rajouté une couleur aussi à la palette, puis tu sais, on est bien content pour vous, mais c'est deux produits qui n'évoluent pas. Et,
alors que la compétition évolue, à pas de géant.
Oui, exactement.
T'as Genesis qui vient de renouveler sa G70. J'ai aucune idée de ce qui va arriver avec ça. Et c'est dommage parce que...
Le potentiel était là.
Oui, absolument.
Le potentiel était là, mais...
Mais c'est ça. Alors, tu sais, autant tu as des nouvelles marques qui arrivent, autant il y en a qui vivent sur du temps emprunté. Et la grande question, c'est de savoir laquelle va disparaître en premier.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Le guide de l'auto, spécial revue d'année.
Antoine, assez parlé de 2021. 2022 est à nos portes et on sort la boule de cristal pour tenter d'imaginer ce qui nous attend.
Oui, ben en fait, mon 45e anniversaire pour commencer.
Ah, d'accord. Donc,
parce que ça commence toujours par ça. Moi, je suis dans les premiers jours de l'année. Ah. Alors, c'est comme ça que ça se passe.
Voilà.
Mais après ça...
Donc, la barbe n'arrêtera pas de grisonner à partir de cette année.
À moins que je la coupe.
Ah, d'accord.
Bon, écoute, évidemment, on va évoquer le retour des salons parce qu'il y a un salon de l'auto de Montréal fin janvier.
Il y a eu un salon de l'auto à la fin de l'année 2021. Donc, le salon de l'auto de Los Angeles qui était présenté quand même dans une formule différente qu'à l'habitude, dans la mesure où...
Pas différente, c'était pas les mêmes exposants.
Ben, c'est ça. Il y avait bien des constructeurs qui étaient absents et d'autres nouveaux dont on a parlé il y a quelques instants. Là.
Et ça sera même chose à Montréal.
Oui.
Bon, ce qui est intéressant, c'est que Il y aura des absents comme Honda Acura. On oui. parlait d'Honda Acura qui n'est plus dans la course de tantôt. Ben,
ils ne sont plus nulle part.
C'est bon. Il y aura des absents comme Honda Acura, comme Volkswagen Audi, comme BMW. Il y a plusieurs constructeurs qui n'y seront pas. Mais moi, j'ai l'impression que ceux qui vont y être vont prendre plus de plancher, vont profiter de l'occasion pour se distinguer. Je pense aux Coréens. Kia, oui. Hyundai vont être présents.
Les Coréens qui ont des véhicules à vendre, hein, d'ailleurs.
Il ne faut pas oublier un truc.
L'approvisionnement et l'inventaire, ils ont moins de problèmes que d'autres manufacturiers. Ouais. Donc, la pertinence d'être au salon de l'auto, de se faire voir et de présenter ces véhicules, c'est intéressant pour Hyundai et Kia.
Tu sais, moi, je pense au premier... En fait, quand tu rentres au salon de l'auto et tu commences à faire le circuit à Montréal... T'as d'abord le circuit où t'arrives au 7e et t'as généralement Mitsubishi et Kia qui sont en haut. Ben là, Mitsubishi étant absent, Kia va probablement prendre le plancher au complet.
Mais en fait, le parcours du salon est revu au complet pour 2022.
On éliminerait peut-être même le 7e.
Oui, il y a des salles, il y a des qui sont éliminées là, forcément.
Ben, ça serait logique parce qu'il va y avoir moins de monde.
Oui, effectivement.
Fait que tu sais, j'ai bien hâte de voir comment on va jouer ça, mais pour ceux qui vont être présents, je pense que ça va peut-être être bénéfique. En même temps, attendez-vous à ce qu'il y ait une baisse drastique de visiteurs cette année.
Oui, parce que, je pense qu'une partie de la population qui s'est assurément ennuyée de ces événements-là, mais sûrement une autre partie de la population qui n'a pas nécessairement envie...
d'aller porter un masque pendant 3 heures.
Ben, tu sais, de prendre le métro pour se rendre au centre-ville de Montréal, de porter un masque, comme tu le dis, pendant 3 heures, de côtoyer plein d'autres humains. Donc, tu sais, il y a certaines habitudes qui ont changé là, dans les 2 dernières années. Ce sera intéressant de voir ça. Et bon, comme d'habitude, c'est en janvier, donc ça viendra assez vite. Un peu plus tard, en mars, ce sera le Salon de l'Auto de Québec qui a annoncé ses dates aussi, qui va avoir lieu.
Ouais.
Donc, j'ai l'impression qu'on va regarder un petit peu sur la feuille du voisin à Québec, hein, et qu'on va regarder comment ça se passe à Montréal et qu'on va essayer de tirer le mieux de tout ça pour avoir un salon. Hein. Puis c'était dans les derniers de 2020, ça, le Salon de l'Auto de Québec.
Mais le problème de ces salons-là, c'est les endroits et le syndicat qui vient avec. C'est-à-dire que les employés et les gestionnaires de ces endroits-là n'acceptent pas de faire de compromis, de mettre de l'eau dans leur vin. Et ça va probablement courir à la perte de certains événements. Parce que
la location du Palais des Congrès pour 2 semaines ne coûte pas moins cher. Là, non.
Mais ça n'a pas de bon sens. T'sais, c'est ça qui c'est ça qui fonctionne pas. T'as moins de monde, t'as moins d'achalandage, t'as moins d'exposants. Tu peux pas me charger le même prix.
Oui. c'est pourtant
comme ça. Il y a des gens qui vont faire, ben non, c'est pas vrai que je vais débourser. Ouais. Tu sais, je veux dire, aller au salon de l'auto en famille, là, puis se stationner, puis manger, ça coûte 200$.
Oui, puis manger une pointe de pizza, là. Ouais. Tu sais, c'est une sortie qui est très dispendieuse.
Alors,
là, encore là, tu n'as pas acheté une voiture miniature de collection au kiosque d'autosuggestion.
Mon Dieu!
OK.
Ni le guide de l'auto au kiosque du guide de l'auto.
Oui, que tu peux faire signer par tes auteurs préférés.
c'est du beau placement de produit.
C'était une belle plug.
C'était une belle suggestion.
Oh, voilà, c'est intéressant. Mais sinon, pour 2022, en plus des salons, ben, y a des modèles qu'on attend avec impatience. Beaucoup de véhicules électriques, forcément. Chez Cadillac, on va débarquer finalement avec la Lyriq, qu'on va pouvoir voir au salon de l'auto, soit dit en passant. Moi, c'est une voiture qui a vraiment capté, qui a piqué ma curiosité. Ouais. J'ai hâte de la voir, j'ai hâte de la conduire. Toujours dans l'électrique, ben, chez Nissan, on aura l'Ariya, finalement, hein, j'ai envie de dire, après tous les autres dans le segment, finalement, on aura...
C'est long, hein?
C'est très long. Je trouve ça très long. Et chez Nissan, on aura la Z. Ça aussi, j'ai envie de dire, finalement. Mais c'est une voiture qui est très attendue. Ce sera très prometteur. Et ces deux véhicules...
Il y a des véhicules qui vont débarquer cette année qu'on attend de pied ferme. Moi, j'ai bien, bien hâte de voir le Rivian sur nos routes chez nous.
Oui.
Puis essayer une version de production.
Et de voir ça évoluer aussi dans le temps. Là, est-ce que la qualité d'assemblage va être au rendez-vous? Est-ce que le véhicule va être, entre guillemets, protégé pour survivre à l'hiver? C'est des grandes questions. Et tu sais, de voir ces véhicules-là aussi remorqués, travailler moindrement, ça va
Même le Lightning.
Oui,
Ford Lightning, j'ai bien hâte de voir ça. La grande question, puis ça nous amène peut-être à notre prochain point,
oui.
Est-ce qu'il va y en avoir? Est-ce qu'on va pouvoir en acheter? Est-ce que l'industrie va se remettre à la page?
C'est une excellente question.
Moi, je trouve ça correct qu'on attende quelques semaines, quelques mois pour la livraison d'un véhicule. J'ai pas de problème avec ça.
Et d'avoir un véhicule, tu sais, que tu auras commandé de la couleur que tu veux, du niveau d'équipement
que tu
veux, c'est bien correct comme
ouais.
ça.
Ouais.
Et c'est un minimum d'adaptation, autant pour le consommateur que le concessionnaire, mais d'attendre 2 ans, ça n'a aucun bon sens.
Non.
Et tu sais, on voyait il y a quelques semaines là, que pour le Lightning, on avait 200 000 précommandes. Là. Si tu vas demain matin là, donner ton nom pour un Lightning, là, tu vas l'attendre combien d'années? Là? T'as le temps de changer d'idée 25 fois. Là.
Ils ont le temps de redessiner l'F-150 bien des fois.
Ben, exactement.
C'est ça,
donc, on perd un peu de réalisme.
Ben ouais, c'est ça.
Le regard n'est plus réaliste. Voilà.
Moi, je me suis commandé une voiture que je devrait techniquement avoir en mai ou en juin.
Ouais.
Et c'est
vous
loin.
Vous pourrez voir c'est quoi dans l'éco-vedette.
Oui, c'est ça. Non, mais...
Oui, c'est loin.
C'est loin.
Oui.
Puis, je trouve ça vraiment, vraiment limite, là.
Oui.
Mais passer ça, c'est comme, non, tu viens de me perdre, là.
Oui, parce
que... Je ne commanderai pas une voiture que je vais... Tu sais, me connaissant en plus...
Oui.
Moi, je peux...
Oui, tu peux avoir un autre coup de cœur, puis voilà,
c'est
là.
Ça.
Donc, c'est un peu embêtant.
Alors, c'est l'autre truc pour 2022. Est-ce que les gens devront continuer à attendre et à attendre et à attendre? Moi, j'ai le feeling qu'on n'a pas la tête sortie de l'eau encore à ce niveau-là.
Bon, ben ça veut dire qu'on va avoir du contenu en masse pour continuer l'émission du Guide de l'auto en 2022.
D'ici ce temps-là, joyeuses fêtes.
Merci, Antoine. Joyeuses fêtes à toi. Joyeuses fêtes à tous nos auditeurs. Et on vous retrouve en début d'année 2022.
Ho, ho, ho.
Cube Radio.